Je vais me présenter rapidement, le père Pierre-Marie Castaños. Je suis de la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie qui se trouve, dont le siège, c'est-à-dire la maison mère, se trouve à l'abbaye d'Ourscan dans l'Oise et qui a d'autres aussi maisons reliées à elle. J'ai 57 ans, ça va faire depuis 1995 que je suis prêtre et je suis rentré dans la communauté en 1987. Mon ministère m'amène beaucoup à deux choses. Premièrement, à tout ce qui est autour de la préparation au mariage et de l'aide au discernement en amont des fiançailles, parce qu'une fois que les fiançailles sont célébrées, d'une certaine manière, la messe entre parenthèses est dite, surtout dans des familles traditionnelles. Et puis ensuite préparation au mariage. Donc, et puis ensuite tout ce qui est autour des jeunes professionnels, dont vous êtes une magnifique représentation. Avec un certain nombre de groupes, le groupe à Compiègne que j'accompagne depuis 3 ans maintenant, 4 ans, Spi&Spi qui a été fondé en 2008, et puis voilà un certain nombre de jeunes professionnels qui demandent aussi à me rencontrer ou alors auprès desquels je suis amené à intervenir. Voilà, toujours est-il, c'est une grande joie de pouvoir venir à chaque fois, donc on essaye d'alterner une fois sur deux un autre témoin, puis une fois sur deux moi, pour aborder un certain nombre de questions. Et ce soir, la question, ce sera les clés de la prise de décision. Je pense que c'est quelque chose qui est capital, surtout pour vous, à l'étape où vous en êtes de votre vie, où il y a beaucoup de décisions qui sont à prendre et qui sont importantes à prendre, et ce n'est pas si facile de les prendre et pas si facile de se tenir ensuite, une fois qu'on les a prises. Je crois qu'il y a, grosso modo, et c'est en guise d'introduction, trois grandes décisions dans sa vie. Et d'une manière ou d'une autre, les autres décisions que l'on prend sont liées à celles-ci. Il y a le choix de l'état de vie, ce qu'on appelle le choix de l'état de vie, c'est-à-dire à la fois soit l'engagement dans la vie matrimoniale, soit l'engagement dans la vie consacrée, sacerdotale, qui permet, ce choix d'état de vie est important parce qu'il permet aussi d'unifier beaucoup de choses de notre personnalité, tous nos désirs, toutes nos envies de construire des choses sont unifiées par cet état de vie. Ensuite, le choix de la profession et peut-être le choix d'une réorientation professionnelle. La question de la profession, évidemment, n'est pas même mettre sous le même niveau que l'état de vie, évidemment, mais est une question très centrale dans la vie d'une personne. Et puis le choix de Dieu, parce que c'est aussi un choix que croire. Et peut-être certains d'entre vous, en tout cas je sais que c'est pour avoir parlé avec nombre d'entre vous, vous êtes revenu à la fois sous forme de tradition catholique, d'éducation catholique, etc., mais après les folles années estudiantines où la question spirituelle n'est peut-être pas au goût du jour, eh bien je vois que, comme jeune professionnel, beaucoup reviennent à cette question de foi, qu'est-ce que c'est les fondamentaux, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce qui est compatible en termes d'éthique avec ma profession, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Et donc ces trois choix-là, le choix de l'état de vie, le choix de la profession, le choix de Dieu dans sa vie, ce sont les grands choix que l'on a à poser. Et de là, se structure notre existence. Et ça, je pense que c'est important que chacun puisse y réfléchir là où il en est. Dans la prise de décision, évidemment, n'est objet de prise de décision que quelque chose qui est bon. On ne réfléchit pas à prendre la décision d'attaquer la Banque de France, à moins que, évidemment, vous ne partagiez le bulletin avec les frères. Et donc, dans ce cas-là, on serait tout à fait, peut-être, bienveillant. Mais, blague à part, voilà, c'est d'abord qu'est-ce qui est bon. Ça veut dire, derrière ça, dans la prise de décision, c'est où en êtes-vous de votre formation intellectuelle, justement pour choisir le bien et éviter le mal. Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Est-ce que vous êtes formé? Et je pense que la prise de décision, évidemment, va de pair avec cette formation à la fois humaine et à la fois spirituelle, et je tiens beaucoup à ce que les deux soient respectés, sans spiritualiser outre mesure, mais sans non plus, évidemment, évacuer Dieu de votre vie, mais de tenir bien les deux ensemble, ce qui n'est pas si simple. Mais d'abord de vous former. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qu'on appelle les choses bonnes? C'est pas le thème de ce soir, parce que ça demanderait un topo à part entière. Mais en tout cas, ça demande. Aujourd'hui, c'est pas si simple. Et quelque part, votre génération, pour laquelle j'ai une très grande affection et une vraie tendresse, votre génération est dans une situation complexe parce que bon nombre de modèles ont sauté, particulièrement au plan familial, ne serait-ce que des lois récentes, mais aussi en termes de choix de vie, en termes de poursuite d'une décision que l'on pensait irrévocable, et on voit que des personnes autour de nous, eh bien, finalement, se désengagent, alors que les décisions qu'elles avaient prises, ces personnes, eh bien, étaient présentées pour toujours. Voilà. Votre temps n'est pas un temps facile de ce point de vue-là. Parce que c'est plus insécurisant. Et on se dit, mais est-ce qu'on fait. Et puis, se rajoute à ça, comme chrétien, le sentiment d'être, et plus qu'un sentiment, l'expérience d'être minoritaire. Même si, pour le moment, le nombre des baptisés, c'est la majorité des Français qui sont baptisés, mais de baptiser à être chrétien, vous voyez tout de suite la différence. Et donc, porteur de certaines valeurs, ben, vous voyez qu'autour de vous, même parmi des personnes qui se prétendent chrétiennes et catholiques, ben, on sent que c'est quelque chose qui est difficile à préserver, à garder, justement, qu'on a pris cette décision, entre autres, cette décision de la foi, cette décision de se rapprocher du Seigneur, etc. En termes d'introduction encore, c'est le deuxième point de l'introduction, et ça c'est un point qui est important, la prise de décision relève de ce qu'on appelle la vertu de prudence. La vertu de prudence, juste un petit débriefing, ce qui est une des vertus cardinales. Vous connaissez les trois autres, il y a cardinal comme les quatre points cardinaux, donc avec la justice, la force, la tempérance, qui sont les trois autres vertus, et la prudence la quatrième. Vertu, c'est quoi la définition de vertu? C'est disposition permanente acquise par la répétition des actes. Comment est-ce que je deviens juste? Eh bien, en posant des actes justes. Comment est-ce que je deviens fort d'une force qui me fait tenir dans la difficulté et aller au-devant de quelque chose de difficile? Ben, c'est en posant des actes de force. Comment je deviens prudent? C'est en posant des actes de prudence. Et donc, c'est la répétition des actes. C'est ça, la vertu, c'est ce qui nous fait. Et de même, les vertus théologales, que vous connaissez davantage peut-être, foi, espérance, charité, bien sûr, elles sont données par le baptême, mais elles demandent une répétition des actes. On devient un homme de foi, une femme de foi, par la répétition des actes. Donc, du coup, la vertu de prudence est une vertu qui se compose de trois parties qui sont importantes. La première partie de cette vertu de prudence, c'est d'abord la délibération. Pourquoi est-ce que je prends la décision que je prends? Juste un petit retour en arrière. La vertu de prudence, c'est ça, c'est une vertu pratico-pratique qui vise justement la prise de décision. Être prudent ne veut pas dire appuyer sur le frein. Ça peut être tout à fait imprudent dans une vie que d'appuyer sur le frein, par peur. Parce que c'est là où on voit aussi le lien avec nos psychologies plus ou moins équilibrées. La peur, parfois, nous fait redouter des choses et donc reculer, alors qu'au contraire, il fallait avancer et il fallait donner de la gomme. Et ça aurait été. Et donc, c'est peut-être un manque de prudence que de reculer dans certains cas au lieu d'avancer et de faire preuve, justement, de vertu de force, de courage. Vous voyez vous-même qu'il y a une connexion. C'est quelque chose de lié, parce qu'on est une unité, forcément, entre quelqu'un qui n'est pas courageux, par exemple, donc manque à la vertu de force, bien peut tout à fait être imprudent et prendre les mauvaises décisions uniquement parce qu'il n'est pas courageux ou courageuse. Quelqu'un qui manque de tempérance, la tempérance, ça touche tout ce qui est du domaine du sensible, du domaine du plaisir, je sais pas quoi, parce qu'il a une gestion par rapport à l'alcool, par exemple, qui n'est pas en place. Cette manque de tempérance peut lui faire prendre aussi des décisions, évidemment, imprudentes. Donc, c'est intéressant de voir, mais c'est pas l'objet de ce choix, mais de voir comment c'est construit, et on le tire ça de la philosophie grecque. C'est les philosophes grecs qui nous ont apporté cette morale des vertus, et qui est vraiment très précieuse, je trouve, et dont l'Église s'est emparée d'une certaine manière, et on peut aussi ensuite les remixer, si j'ose dire, avec les vertus théologales. Donc, mais dans la vertu de prudence, donc, qui vise l'action, la vertu de prudence vise la prise de décision, vise le concret, c'est ce qui est concret dans nos vies. Hein. Il y a donc, je vous disais, la délibération. Pourquoi est-ce que je prends la décision que je prends? Bien souvent, des personnes font marche arrière parce qu'elles ne savent pas pourquoi elles prennent les décisions. Je prends un exemple. Quelqu'un veut changer d'orientation professionnelle. C'est une grosse décision dans une vie, hein, changer d'orientation professionnelle, ou ne serait-ce que rester grosso modo dans la même orientation, mais poser sa démission, aller vers une autre entreprise, etc. C'est une grosse décision. Mais souvent, au moment parfois de passer à l'acte, parce que la prudence vise l'action, eh bien, on voit la personne qui fait marche arrière, qui commence à douter. D'autant plus si vous avez des personnalités, des psychologies qui sont sujettes au manque de confiance. Si vous avez des psychologies qui font que vous hésitez, vous êtes assez vite déstabilisé, peut-être vite influencé. Hein, des personnes qui sont influençables peuvent très bien poser des actes qui sont imprudents, parce que c'est le dernier qui parle qui a raison. Et vous voyez donc, tout ça vient du fait que dans la délibération, il n'y a pas eu assez de clarté dans l'intelligence. Pourquoi est-ce que je prends la décision que je prends? Et ça, c'est vraiment important. Ça, je me permets d'insister. Donc, il y a tout un travail à faire intérieurement de réflexion. Et une fois qu'on a la finalité, ce vers quoi on va, eh bien, on y va. Et du coup, quand on est parfois sujet au doute, sujet à l'incertitude, etc., c'est se remettre face à sa finalité pour dire oui, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu, on y reviendra après, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu la certitude intérieure que c'était cette décision que j'ai à prendre. Ce qui veut dire aussi, au plan personnel et psychologique, se connaître soi-même. Des personnes qui sont sujettes, par exemple, à l'anxiété, des personnes anxieuses, angoissées, du coup, le fait de se connaître soi-même permet, grâce à l'intelligence, de mettre une distance entre ce qu'on peut connaître comme émotion, oui, changer de profession, rentrer dans une nouvelle période d'essai, est-ce que je vais pas être pris, est-ce que je vais pas être pris, j'ai en même temps un prêt à rembourser, parce que ceci, parce que cela. Des personnes sujettes à l'angoisse, à l'anxiété, c'est important qu'elles disent, voilà, je sais que cette anxiété-là fait partie de ma personnalité, voilà, on ne choisit pas sa psychologie, on l'accueille comme on peut, et avec la grâce de Dieu, et puis ensuite, mais de se dire, voilà, ce n'est pas ça qui aura le dernier mot, ce ne sera pas cette anxiété, cette angoisse, cette insécurité intérieure qui aura, je sais que tu es là, anxiété, dans ma psychologie, mais je sais, grâce à et c'est le travail de l'intelligence, de prendre cette distance entre ces émotions intérieures que je peux ressentir et la décision que j'ai à prendre et le but que je me suis fixé. Hein, donc, d'autant plus s'ils viennent des étapes, et il en vient toujours des étapes, des écueils, des conflits, ça vient toujours. Hein, et donc du coup, on peut être déstabilisé, mais est-ce que j'ai bien fait de faire ceci, etc. Se remettre face à sa finalité. Pourquoi j'ai choisi de faire ce que j'ai fait? Pourquoi le but? Quel est le but de ma vie et de ma vie et le but de ce choix particulier, par exemple, de la réorientation professionnelle? Et des personnes restent au milieu du gué simplement parce qu'elles n'ont pas assez pris de temps pour délibérer et se dire à elles-mêmes pourquoi elles faisaient ce qu'elles font. Le deuxième aspect de la vertu de prudence, c'est le conseil. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que dans des grandes décisions, bien sûr, si vous avez à choisir entre un pain au chocolat et un pain au raisin, c'est peut-être bien de ne pas passer par toutes ces étapes de prise de décision formidables. Bon, mais pour les grandes décisions, d'avoir et souvent, quand on est jeune comme vous l'êtes, on se passe du conseil. Je sais, je vois clair, etc. Même si vous voyez clair et que vous avez une bonne intelligence et un bon discernement, le fait de demander conseil valide les choses. En tout cas, déjà, il y a plus d'intelligence dans deux têtes que dans une. Et puis, ça permet aussi d'avoir un autre... C'est un acte d'humilité. Les manques d'humilité peuvent nous entraîner dans des manques de prudence et dans des manques de et dans des décisions erronées. Parce qu'on n'a pas eu cette humilité d'aller voir la personne ad hoc qui pouvait nous conseiller, avec qui parler, ne serait-ce qu'échanger. Avec l'humilité vient la grâce. Avec l'humilité vient la grâce. Et je pense que c'est aussi ça, c'est se rappeler qu'on n'est pas tout puissant, sortir de cette toute puissance, en tout cas si elle habite en nous, et pour vraiment avoir cette décision éclairée par le conseil d'une personne avisée, évidemment. On ne va pas demander, bon, on voit des tas de gens qui se confient à leur coiffeur, à leur boucher, etc. Bon, c'est tout à fait sympathique. Mais bon, ils peuvent être des bonnes personnes par ailleurs. Mais voilà, on voit que les gens... La grâce d'être dans l'Église, quand même, la grâce d'être dans l'Église, c'est qu'on a des lieux où demander conseil à des personnes qui sont, j'allais dire, validées et qui peuvent nous éclairer. Voilà, et on peut être accompagné. Et ça, c'est vraiment une grâce énorme. On peut être accompagné. On n'est pas livré à nous-mêmes. La dernière partie de la vertu de prudence, la dernière étape de la vertu, et donc, de toute prise de décision, que consiste la vertu de prudence, c'est le passage à l'acte. Je vois des personnes, justement, elles ont délibéré, oui, c'est vraiment ça, je dois changer de profession. Oui, je dois choisir telle personne comme compagnon ou compagne de vie. Oui, et ensuite, elles demandent conseil, on les confirme. Mais ensuite, le passage à l'acte, soit il y en a qui ne sont pas au rendez-vous du passage à l'acte, ne sont pas au rendez-vous. Or, on n'oubliez pas, la vertu de prudence vise l'action, et le tout discernement vise l'action. Et donc, du coup, il n'y a plus rien, c'est ce qu'on appelle les velléitaires. Les velléitaires, c'est « oui, je vais faire ça, oui, j'y vais, etc. » Quand il s'agit de shooter dans le ballon, il n'y a plus personne. Hein. Ou ceux qui passent à l'acte, mais j'allais dire, de façon tout à fait... contraire à ce qu'ils ont pu délibérer et ce qu'on a pu leur conseiller. Alors bien sûr, le conseil reste optionnel, un éclairage. C'est pas au conseiller à prendre la décision, on est bien d'accord. Mais c'est quand même un éclairage. Mais il y a des personnes, on est vrai, parfois je suis surpris, ils ont bien fait leur délibération, ils ont demandé conseil. Et puis finalement, le passage à l'acte est complètement de l'autre côté. C'est étonnant. Est-ce que c'est par peur, est-ce que c'est, je ne sais pas, c'est insécurité ou quelqu'un d'autre a parlé, voilà, donc, et a donné un autre avis. Voilà, je pense en tout cas ces aspects-là sont importants. Et puis aussi, je suis toujours dans l'introduction, se rappeler que même si on a fait des mauvais choix, que le Seigneur passe par nos mauvais choix. J'aime bien cette phrase du père Rainero Cantalamessa, le prédicateur du pape, qui est un franciscain ou un capucin, qui est celui qui prêche au pape, donc c'est quand même pas rien. Il parle du GPS, guidé par le Saint-Esprit. Voilà, on a fait des choix qu'on pensait bien à un moment donné, on est allé dans telle direction parce que c'était notre famille, c'était nos parents, c'était j'en sais rien. Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça, quoi. C'était pas. Du coup, le Seigneur continue d'agir et de nous accompagner malgré nos mauvais choix ou nos choix qui sont plus ou moins erronés, etc. Ça veut dire qu'il y a une espérance liée à la prise de décision. Ne désespérez pas de vos actes manqués. Ne désespérez pas. Voilà, ça fait partie de l'humilité. Il y a des choses où on peut se tromper. Moi aussi, je me suis trompé dans des tas de choses. Dans ma vie, voilà, je fais des erreurs, j'aurais dû faire ceci, dire telle chose, je ne l'ai pas dit, ou j'ai dit une chose qu'il ne fallait pas dire, bon voilà, bon, des trucs, on se dit, oui, après la personne vient, bah oui, mais j'étais blessé parce que vous m'avez dit, etc. Bon voilà, bon, on demande pardon, etc., mais ça, c'est important de se dire que, justement, c'est le Seigneur continue de passer même si nos choix antérieurs n'ont pas été forcément les bons, qu'on les regrette. Il continue de nous accompagner. C'est une source d'espérance très, très importante. Voilà, j'aimerais maintenant passer à deux choses qui sont importantes, c'est quels sont les critères subjectifs et quels sont les critères objectifs de toute prise de décision. Donc, l'introduction, on a parlé des trois grands choix, on a parlé des différentes étapes de la vertu de prudence, l'importance de l'espérance et de l'humilité. Et puis, maintenant, on va prendre les critères subjectifs et les critères objectifs. Ce que je vais vous donner là, c'est une sorte de trousse à outils. De trousse à outils, c'est un faisceau d'indices qui va pouvoir vous aider à aller dans un sens ou dans un autre. Un seul de ces éléments, un seul de ces critères ne suffit pas à justifier telle ou telle décision, bien sûr. Mais c'est en tout cas, ça m'a beaucoup aidé dans beaucoup de circonstances. Premièrement, donc, les critères subjectifs, c'est-à-dire ceux qui sont dans le sujet qui discerne, c'est-à-dire en vous-même, dans votre intérieur. Le premier que je verrai, c'est le désir. Qu'est-ce que vous portez comme désir? Qu'est-ce que vous désirez au fond de vous-même? Qu'est-ce qui vous habite? Et de ce point de vue-là, je pense que c'est important de savoir que le Seigneur nous appelle en faisant naître de bons désirs en nous, de nous engager dans telle ou telle voie. Ça veut dire derrière ça, est-ce que je suis connecté à mon être profond, à mon cœur profond? Je suis connecté ou je vis dans la superficialité, ou je vis dans le désir d'être dans l'image de moi-même, qu'est-ce que dans le regard des autres, dans le désir de plaire, qui est une vraie plaie, hein, ce désir de plaire, etc. Ou est-ce que je suis dans mon cœur profond? Qu'est-ce que je désire profondément dans ma vie? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'habite intérieurement? Qu'est-ce qui me ferait à la fois du bien et que je pourrais, dans lequel je pourrais m'épanouir, hein? Donc ça veut dire, sachons être à l'écoute de notre cœur, laissons-nous enthousiasmer parce que nous voyons de beau, de bien, de vrai, hein, soyez des âmes d'émerveillement, parce que c'est aussi comme ça qu'on découvre les bons désirs, c'est par l'émerveillement. Hein, donc ne mettez pas de bride à ça dans vous, hein, dans cette capacité d'émerveillement, dans cette capacité de contemplation, dans cette connexion à vous-même. Et si vous voyez des attitudes en vous qui vous emmènent trop loin de vous-même, à l'extérieur, justement on voit bien le monde agit beaucoup par distraction, Dieu lui agit par attraction, et on voit que dans nos vies il y a beaucoup de forces centrifuges qui nous emmènent loin de nous-mêmes, qui fait qu'on n'est plus connecté à notre être profond, on n'est plus connecté à ce que vraiment on a. On est connecté soit au choix de mes parents, soit au regard des autres, soit au mode de la société. Mais on n'est pas connecté à qu'est-ce que vraiment je veux. Et ça, ça prend du temps, ce n'est pas si simple. Et donc, voilà, c'est la question du désir. Qu'est-ce qui me rend profondément heureux? Parce que le choix, c'est un choix qui nous destine au bonheur, évidemment. Un deuxième point de ces critères subjectifs qui m'habitent donc intérieurement, c'est arriver à une certitude intérieure. Et ça, c'est le fruit de la vertu de prudence, et singulièrement de la délibération dont j'ai parlé tout à l'heure. Arriver à une certitude intérieure. Surtout dans les grandes décisions de sa vie. On ne prend pas des grandes décisions dans un brouillard absolu. Parce que arrive ce qui peut arriver, justement, on ne sait plus pourquoi on a pris cette décision et on peut être complètement paumé après. On se dit, mais oui, pourquoi j'ai changé de métier? En fait, ça ne va pas très bien dans cette boîte-là, mais avant j'étais mieux, etc. Pourquoi est-ce que j'ai changé d'engagement? Ou pourquoi j'ai rompu mes fiançailles alors qu'au fond, voilà, c'est cette certitude intérieure. Qui va être précieuse, parce que c'est là-dessus que vous allez vous appuyer pour traverser les épreuves. Parce que la question, c'est quand il y a des épreuves, quand une décision est prise et qu'il y a des épreuves, sur quoi on s'appuie? Mais on s'appuie sur sa certitude intérieure. C'est-à-dire, dans toute décision, il y a des épreuves. Il y a des choses qui coûtent, il y a des critiques, il y a des échecs. Il y a le regard des autres, etc. Hein, et donc, cette certitude intérieure qui vous permet de traverser, qui vous permet, au fond, de donner à l'intelligence la lumière suffisante pour agir, qui vous permettra aussi de faire mémoire, et ça, c'est important, cette dimension-là, de faire mémoire dans une prise de décision, du pourquoi je me suis engagé dans telle voie. Eh bien, je reviendrai à ma certitude intérieure. Je ne peux pas dire, par exemple, dans un choix amoureux, puisque c'est quelque chose que j'accompagne à travers les fiancés, etc., c'est important, évidemment, c'est un grand choix de vie, si ce n'est le grand choix de sa vie. Elle se dire pourquoi j'ai choisi telle personne. Et si je me laisse embringuer uniquement par la vie d'un tel, d'une telle, etc., le regard des autres, et que je n'ai pas dans cette certitude intérieure, même si je suis insécure, même si je suis de nature angoissée, anxieuse, même si, mais j'allais dire ça c'est la superficie des choses. Ce qui est important, c'est l'intérieur. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai eu cette certitude que c'était avec cet homme, cette femme, que je peux faire le restant de ma vie? Est-ce que j'ai eu cette certitude que, oui, je suis appelé à changer d'orientation, etc. Ça sert à faire mémoire pour pouvoir avancer. Un autre point, c'est Ignace de Loyola, donc le fondateur des Jésuites, qui dit la chose suivante, qui dit un conseil, je trouve, de bon sens, parce que tout ça, c'est des conseils de bon sens. Si on n'a pas la lumière pour aller à droite ou à gauche, on reste là où on est en attendant que Dieu veuille bien manifester sa volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez beau discerner, vous avez beau avoir du courage pour prendre la décision, il n'y a rien qui vient. Il n'y a pas de clarté qui arrive. Il n'y a pas de certitude intérieure qui arrive. Voilà. Et pourtant, peut-être vous n'êtes pas de nature anxieuse, vous n'êtes pas de nature insécure, etc. Non, vous avez plutôt une légitime confiance en vous, etc. Mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Et puis on attend. Si ça ne vient pas, on attend. On attend que ça vienne. On attend que, d'une manière ou d'une autre, les événements et les personnes, on va le voir tout à l'heure, puissent m'indiquer un chemin. Et non pas le changement pour le changement. Parce qu'il y a des personnes, on sent ça, justement, comme elles sont à la surface de leur être avec un désir de plaire, etc. Du coup, il faut que je fasse quelque chose pour... Non. Si ce n'est pas ça, si tu n'as pas la lumière... Reste là où tu es et dans l'humilité, attends une lumière intérieure que ton intelligence perçoive là où tu dois aller. Ça, c'est un très beau conseil de notre ami Saint Ignace. La rectitude d'intention, évidemment, ça me paraît une évidence, c'est-à-dire on s'engage, pas d'engagement à laisser. C'est-à-dire que quand je suis surtout dans les grands engagements, voilà, je m'engage avec une intention droite. J'ai un désir vraiment de faire le bien, de construire le bien, j'ai vraiment ce désir-là, l'intention droite. Autre point, qui fait partie des aspects subjectifs, la confiance et l'abandon. Parce qu'on a beau avoir discerné, avoir passé en revue les différentes étapes de la vertu de prudence, avoir une certitude intérieure, rien ne remplace la confiance et l'abandon. À un moment donné, il y a un lâcher-prise. Alors vous me direz, mais c'est un peu en contradiction avec ce que vous venez de dire. Vous venez de dire qu'il faut une raison. On peut pas. Oui, j'allais dire, c'est et, c'est pas ou, c'est et j'ai une certitude intérieure, mais cette certitude intérieure ne va pas me dispenser d'un lâcher-prise, ne va pas me. Si je me suis lancé dans telle voie professionnelle, dans telle orientation de carrière, dans telle relation amoureuse et dans tel engagement, etc., à un moment donné, il y a un lâcher-prise, je ne vais pas contrôler tout, et ce ne serait même pas souhaitable. Et c'est parfois là où les difficultés dans les engagements, c'est qu'on veut être dans le contrôle. Et comme on ne contrôle pas tout, du coup, on ne fait rien. Vous voyez, moi, je crois que c'est quelque chose qui... Là, il y a un point parfois à travailler en nous-mêmes, qui est un point spirituel, au fond, de sortir de ce désir de toute puissance, de ce désir de contrôle, pour rentrer dans une confiance et une disponibilité intérieure, une humilité de fond. Un des critères qui est aussi intéressant, c'est la paix et la joie. À quoi on voit que ce que j'ai choisi, eh bien, je reconnais aussi que le Seigneur vient avec moi et travaille avec moi. C'est la volonté de Dieu aussi qui se manifeste par là. C'est la paix et la joie intérieure. Cette paix et cette joie intérieure qui... profonde, peut-être en superficie, encore une fois, il peut y avoir de l'agitation, mais en profondeur, cette paix, cette joie intérieure me permettent d'avancer et sont des signes, voilà, intérieurement, que je veux dire, c'est dans la bonne direction. Hein. Mais en même temps, je vous dis ça, en même temps, je vous dis peut-être l'inverse, pardon, Ce n'est pas parce qu'il y a des tempêtes que ce n'est pas de Dieu. Je répète. Ce n'est pas parce qu'il y a des tempêtes que ce n'est pas de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est agité, c'est compliqué, on va prendre une relation amoureuse, il m'arrive d'accompagner des couples où c'est complexe, que ce n'est pas de Dieu. C'est-à-dire que ça peut être de Dieu tout en ayant des tempêtes. C'est ce que ça veut dire. Il faut juste discerner, et je pose la question souvent aux couples dans ces cas-là, est-ce que vous n'allez pas vous épuiser ? Il y en a qui s'engueulent beaucoup dans le couple, etc. Bon, mais est-ce que vous allez, vous savez, vous partez pour, avec l'allongement de la durée de la vie, vous partez au bas mot, pour, j'en prenais pour 50 ans. Donc du coup, est-ce que vous n'allez pas vous épuiser ? Bon, c'est une question. Mais il y a des personnes, c'est pour ça qu'il faut rester très humble quand on accompagne les personnes. On s'y tient, on se projette, on essaie de, on ne peut pas ne pas se projeter, qu'on accompagne les gens, etc. On dit, tiens, on n'aurait pas fait ça, mais finalement, ben, ça tient, on voit qu'au travers des années, voilà, il y a eu des tempêtes, il y a eu des moments difficiles, mais voilà, ça a été aussi béni dans cette tempête, et il y a eu quelque chose de fort qui s'est donné là-dedans. Voilà, c'est aussi important d'en prendre conscience, parce que la tempête peut aider aussi à réaffermir le pourquoi de notre choix. Un autre point qui est important, c'est la liberté intérieure. Pour prendre une décision, c'est cette liberté intérieure. Et surtout des grandes décisions de sa vie. Et saint Ignace de Loyola, encore une fois, parle de la sainte indifférence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette sainte indifférence ? La sainte indifférence, c'est... comment dire ça ? C'est parce que les mots sont piégés. C'est pas l'indifférence, c'est pas être indifférent, en tout cas. Ça, c'est pas ça. La sainte indifférence, c'est au fond, quoi qu'il advienne, je suis disponible. Et c'est ce que ensuite Ignace de Loyola dit, il faut offrir l'Isaac du cœur, en référence, vous l'avez bien compris, au sacrifice d'Abraham, où Dieu lui demande d'offrir son fils unique Isaac. Il faut offrir l'Isaac du cœur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce à quoi je tiens le plus. Ce à quoi je tiens mordicus, c'est absolument ça, etc. Arrivera à un moment donné dans l'étape de prise de décision où vous l'offrirez. Vous vous en défrayez intérieurement. Si ça n'advient pas, ça n'advient pas. Et ça, c'est pas facile. Parce que c'est intérieurement renoncer, quoi que ce soit, que ce soit dans ce sens-là, que ce soit dans l'autre, les deux me vont bien. C'est ça la sainte indifférence. Même si je tiens mordicus à quelque chose, mais à un moment donné, dans l'étape de prise de décision, vous aurez eu cette liberté intérieure de dire, même si ce n'est pas ça, ça me va bien. Parce que le fait d'être crampon, d'être accroché à telle option, parasite évidemment la prise de décision. On n'a pas cette liberté intérieure. Juste pour vous dire un peu, dans des retraites justement de discernement avant les fiançailles, etc. Moi, j'invite beaucoup ceux qui sont boyfriend, girlfriend, donc voilà, à se dire, je t'aime, donc je t'autorise à me quitter. C'est raide, hein ? Je t'autorise à me quitter, c'est-à-dire que et réciproquement. Parce que je t'aime, je t'autorise, pour que ta liberté, qu'à aucun moment tu n'aies senti une emprise de moi sur toi. Je t'autorise en tout cas pendant un temps, moi je crois que c'est bien, de se laisser cette totale liberté l'un à l'autre dans la relation amoureuse. C'est ça la sainte indifférence. Ça demande un vrai dépouillement. Mais en même temps qu'on se retrouve, et j'ai vu ça quand on voit les personnes revenir l'une vers l'autre, etc., il y a eu une telle liberté de choix que c'est, je veux dire, quasi indestructible après. Parce qu'on a eu justement, à aucun moment j'ai été phagocyté, j'ai eu l'impression d'un amour possessif, j'ai eu l'impression qu'on voulait me mettre la main dessus pour ceci, pour cela. Autre point, des critères subjectifs, donc toujours à l'intérieur, une certaine facilité à pratiquer ce à quoi Dieu nous appelle. Ça veut dire quoi ? C'est une certaine facilité. Quand vous vous posez la question d'un choix professionnel, par exemple, posez-vous la question, est-ce que j'ai de la facilité à le faire? Ou est-ce que c'est juste du challenge et quelque part je fonctionne au défi, et parce que je fonctionne au défi, et donc du coup, mais j'ai pas forcément de facilité, mais du coup, je vais. Faut faire attention à ça. En même temps, c'est intéressant de se challenger, ça je suis d'accord, mais en même temps, de se dire, est-ce que j'ai quand même un goût pour faire les choses, une facilité pour faire les choses? C'est aussi ce à quoi Dieu nous appelle des choses, à faire des choses pour lesquelles on a une facilité, on a une disposition, une aptitude. Si on n'a aucun goût, je ne sais pas quoi, pour la dimension artistique, il est probable qu'on ne soit pas appelé à cette carrière. Si on n'a aucun goût pour les comptes, il est probable qu'on ne soit pas appelé à être contrôleur de gestion, si, etc. etc. Savoir une facilité, un goût à pratiquer les choses. D'où l'important d'être connecté avec soi-même. Autre point très intéressant, encore une fois, de notre ami Saint Ignace, patron des coiffeurs, c'est une blague, c'est là où il faut rire. Donc du coup, l'ami Ignace nous dit, ne pas remettre en cause au moment de la tempête ce qu'on a discerné en pleine lumière. Ne pas remettre en cause au moment de la tempête ce qu'on a discerné en pleine lumière. Des tempêtes, il y en aura. Dans une décision, dans un choix de vie, forcément il y en aura. Et ça m'a été très précieux dans ma propre vie, ça. Quand je suis rentré dans la communauté, il y a eu une clarté, ça j'en remercie le Seigneur toute ma vie, il y a une clarté, c'était simple, je sais que pour d'autres ils ont beaucoup galéré, etc. Bon voilà, chacun a son chemin. Mais il y a eu des moments difficiles, dans ma communauté il y a eu des moments difficiles. Elle est passée par des hauts et des bas, et pas mal de bas, peu de hauts. Et donc du coup, ce qui a été discerné dans la pleine lumière, bien dans la tempête, je ne le remets pas en cause. Autre point, encore une fois intérieurement, critère subjectif, l'expérience d'une certaine disproportion. Ça veut dire quoi? Ce à quoi nous sommes appelés dans la vie chrétienne, singulièrement, nous dépasse complètement. Quand on pense à ce que c'est s'engager dans le mariage, quand on pense à ce que c'est s'engager dans la vie consacrée, sacerdotale, religieuse, s'engager dans la vie chrétienne, de devenir vraiment sérieusement disciple de Jésus, pas simplement pour rire ou parce que c'était dans ma famille comme ça et je l'ai reçu avec le biberon et que voilà, et tout le monde est comme ça, non, mais d'un engagement sérieux comme disciple du Christ, il y a quelque chose de vertigineux. Il y a quelque chose de vertigineux. Nous sommes la religion de la disproportion. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui nous dépassera. Ça nous dépasse. On est appelé, mais en même temps, ça nous dépasse. Et je trouve ça très beau. C'est la confiance que le Seigneur nous fait dans ce que nous sommes appelés à faire, et en même temps, on sent très bien qu'on se sent bien petit. Et quand, bon, ce n'est pas l'objet de notre rencontre ce soir, mais quand vous regardez, par exemple, dans l'Ancien Testament, les appels des prophètes, eh bien, vous regardez ça, vous voyez que pratiquement tous ont senti leur incapacité, leur fragilité, mais en même temps, comme disait le prophète Jérémie, c'était en moi comme un feu dévorant et je ne pouvais le contenir. Je ne pouvais pas nier ce qui m'habitait, à moins de me nier moi-même. Voilà, donc ça c'est très beau. Dernier point, avant le critère objectif, c'est les signes. Les signes. Alors, la question des signes, moi je le mets entre les deux, comme un peu une charnière entre l'objectif et le subjectif. Les signes, oui, mais des signes qui doivent être confirmés. Je vais dire, en ce temps de déclaration fiscale, nous avons beaucoup de signes pour ne pas tout mettre dans les sources de revenus, par exemple, même si je ne crois pas que l'inspecteur des impôts soit très sensible à ces signes. Hein, mais du coup, les signes, ils doivent être confirmés, parce que je peux trouver aussi des signes pour justifier ce que je veux faire. je sais pas quoi, on est tous les deux dans une retraite et mon père, vous ne savez pas quoi, bam, on a tiré la même parole de Dieu. Waouh, mais c'est sûr, on est appelé, etc. Ou pas. Pour moi, c'est largement pas suffisant. Vous voyez, pour un engagement à vie, c'est largement pas suffisant. Donc voilà, les signes, oui, moi je crois aux signes. Je crois que le Seigneur agit dans notre histoire, dans l'histoire du monde et dans notre histoire personnelle. Oui, il y a des rencontres qui sont des vrais signes, qui nous font, qui nous indiquent une direction, qui nous... Et voilà. Mais voilà, ça a besoin d'être discerné. Voilà. Maintenant, je vais passer donc au critère objectif. Objectif, objectare en latin, ça veut dire jeter devant, c'est-à-dire quelque chose que tout le monde peut constater, quelque chose que je peux voir et que d'autres peuvent voir. Il n'y a pas que moi à le voir. Le désir, par exemple, ben, il n'y a que moi à le voir. Je ne suis pas à l'intérieur de toi, est-ce que j'ai tel désir, j'ai tel autre, j'en sais rien. En revanche, comme accompagnateur, quand on accompagne les personnes dans la prise de décision, la durée du désir, ça c'est quelque chose d'objectif. Vous vous rappelez du père Christian de Chergé, qui était le prieur du monastère de Tibérine, en Algérie. Avant d'être moine cistercien, il était prêtre du diocèse de Paris. Et il a demandé à l'évêque d'alors de rentrer dans la vie monastique. Et comme tout évêque qui se respecte, il a commencé par dire non. Non, parce que déjà, c'était évidemment une personne rayonnante dans sa paroisse, etc., son ministère. Bon, il voyait ce qu'il perdait, mais il ne voyait pas ce qu'il pouvait en gagner. Bon, voilà. Donc, il dit non. OK, l'autre l'accepte. Ensuite, hop, l'année suivante, il revient. Et l'année suivante, quand au bout de 4 ans, 5 ans, un homme que vous estimez équilibré, rayonnant, vous fait cette demande et que vous êtes évêque, il ne faudrait pas que je me trouve en guerre contre Dieu, comme dirait avec le patron. Donc du coup il a dit, ben, faites un essai, comme ça se passe dans ces cas-là, etc. Bon, et on connaît aussi la suite de son cheminement au père Christian de Chergé. Bon, je trouve ça beau de dire que la durée du bon désir est quelque chose qui est un signe, je trouve objectif, en tout cas quelque chose qui peut... Ensuite, la présence de l'Église aussi, d'une certaine manière, alors c'est plus vrai évidemment dans les choix de vie consacrés, parce que là, il y a une approbation, que ce soit de la communauté, du diocèse, pour reconnaître que telle personne est appelée à tel choix dans la vie consacrée, mais j'allais dire que l'accompagnement spirituel, même si ce n'est pas aussi formel et institutionnel, mais l'accompagnement spirituel, c'est-à-dire être accompagné par quelqu'un qui nous suit dans notre chemin de vie, dans notre chemin de foi, dans notre chemin d'humanité, et qui peut mettre un sceau sur notre désir. Je trouve que c'est précieux. Évidemment, ça fait écho à la question du conseil dont on a déjà parlé. Hein. Bien sûr, ce n'est pas au perspi de prendre les décisions, à la place d'eux, mais il est juste là pour indiquer telle ou telle chose, et peut-être surtout là où ça lui semble compliqué d'aller, et de peut-être de mettre en garde plutôt que de dire allez dans un sein, faites attention à ceci et cela. Quoi. Ce que je regrette personnellement, c'est que dans le domaine du mariage, puisque c'est celui que avec lequel j'ai plus de liens, en fait, il y a peu de prêtres qui s'impliquent eux-mêmes, parce que en fait, les ministres du sacrement, c'est les fiancés eux-mêmes. Et donc, du coup, il n'y a pas de demande. Alors que je trouve que ce serait bien qu'il y ait plus un engagement. Bon, ça, c'est un désir personnel, justement, pour aider les fiancés à valider, à mettre un sceau sur leur désir de cheminer ensemble. Un autre point, c'est les circonstances et les nécessités. Alors ça, c'est aussi très important. Vous connaissez la citation du philosophe Pascal. « Les circonstances et les nécessités, voici mes maîtres spirituels. » Les circonstances et les nécessités, voici mes maîtres spirituels. Ça veut dire quoi? Les nécessités, c'est-à-dire ce qui s'impose à moi, nécessité de santé, par exemple. Nécessité, là, cet après-midi, je partageais avec un monsieur voilà, qui est au chômage, et on a parlé longtemps ensemble, il me dit, mais ça fait un an que je cherche. Bon, voilà, c'est à la fois une circonstance, mais c'est quelque chose qui s'impose à lui. circonstances aussi du temps où vous êtes. Voilà, c'est, vous êtes dans ce temps-ci, vous n'êtes pas dans un autre temps. La circonstance spirituelle dans laquelle vous êtes, la circonstance, voilà, circonstance et nécessité, voilà nos maîtres spirituels. Et je trouve ça, parce que ça permet d'objectiver. Quelque part, j'ai pas le choix. J'ai peut-être pas le choix, mais c'est peut-être ça aussi la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est intéressant de dire, ça s'impose à moi, mais est-ce que je ne peux pas aussi porter du fruit dans cette circonstance que je n'aurais pas choisie, mais qui aussi est au service de la fécondité de ma vie? Pourquoi pas? Et je pense que le chrétien aussi a un regard sur les circonstances de sa vie qui est différent d'un autre. Autre point, la formation spirituelle, je vous en ai parlé. Un autre point, évidemment, avoir une vie chrétienne sérieuse, ça veut dire quoi? Avoir une vie chrétienne habituelle, avoir une vie de foi qui, justement, permettra, même au plan humain, pour le professionnel, par exemple, d'être éclairé. Si on veut découvrir la volonté du Seigneur et que jamais on prie, jamais on reçoit le sacrement de réconciliation, jamais on participe à la communauté, avec la communauté chrétienne de la messe dominicale, jamais... Comment vous voulez discerner? Je veux dire, c'est pas possible. Comment vous voulez prendre une décision comme chrétien si vous ne vous donnez pas les moyens de mettre en application, au fond, cette dimension chrétienne de façon beaucoup plus peut-être exigeante? Dernier point, les aptitudes requises. Alors, comme critère subjectif, vous avez dit le goût, etc. Critère objectif, est-ce que j'ai les aptitudes pour faire ça? Et ça, les aptitudes, évidemment, ça peut être constaté de l'extérieur. Exemple, quelqu'un qui veut s'engager dans la vie matrimoniale, a-t-il les aptitudes à la fidélité? Est-il apte? Est-ce que la question de la fidélité, dans son temps de fiançailles, il a donné des coups de canif à la fidélité, moi, je pose la question, est-ce que ce garçon ou cette fille est apte aujourd'hui? Je ne veux pas dire que demain, il ne le sera pas ou elle ne le sera pas, mais aujourd'hui, à prendre cet engagement. De même, quelqu'un qui s'engagerait dans un célibat consacré, et donc avec aussi une affectivité, une sexualité apaisée, est-ce que cette personne-là est apte ou est-ce que c'est un tel combat, une telle torture intérieure que c'est peut-être pas ça que lui demande le Seigneur, parce que voilà, c'est donc avoir les aptitudes requises. Je trouve que c'est aussi dans nos humanités, il y a un chemin qui se trace, donc soyons attentifs à notre humanité pour discerner et pour prendre les bonnes décisions.